Alexis Gagnon au micro. Merci d'être à l'écoute en direct ou en rediffusion à l'antenne du 107.9 FM. Mercredi 28 juin et jeudi 29 juin, il est 16h ou encore un petit peu après 8h si vous nous écoutez en rediffusion. L'actualité ne prend pas de vacances, aussi le menu est-il encore une fois très garni dans cette édition du débrief. Installez-vous confortablement. Vos revues de presse internationales, nationales, provinciales vont débuter dans quelques instants. Bonne émission à tous. Mon nom est Alexis Gagnon, vous écoutez l'émission Le Débrief. Nous allons débuter cette édition des 28 et 29 juin avec la revue de presse internationale. Tout de suite, politique internationale, Rwanda. Paris aurait donné l'ordre de réarmer les génocidaires Hutus. Alors c'est un article ici qui paraît dans le journal Ouest France à l'adresse westfrance.fr à propos du génocide survenu au Rwanda dans les années 90. Je vous lis quelques lignes de cet article. Selon le témoignage d'un haut fonctionnaire rapporté par la revue française 21, l'ordre officiel de réarmer les génocidaires des Tutsis a été donné par le gouvernement français pendant l'opération turquoise de l'armée française au Rwanda en 1994. Hubert Védrine, alors secrétaire général de l'Élysée, est directement mis en cause. Dans son numéro 39, à paraître cette semaine, la revue 21 affirme que la France a donné l'ordre à ses troupes engagées dans l'opération turquoise de réarmer les Hutus en déroute après plusieurs semaines de massacres à l'encontre de la population Tutsi au Rwanda. Selon l'auteur de l'article et cofondateur de cette revue, Patrick de Saint-Exupéry, la confirmation de cet ordre officiel a été trouvée dans les archives par un haut fonctionnaire au moment où, en 2015, ces archives allaient être ouvertes. À ce moment, nous ne savions pas ce qu'il y avait dans ces archives, a affirmé lundi le journaliste de la revue 21 sur la chaîne publique France Inter. Il s'est rappelé que les archives en question n'ont finalement pas été rendues publiques à cause du constat qu'a réalisé ce haut fonctionnaire qui a vu des documents extrêmement compromettants. Et le journaliste qui est à la barre de cette revue, la revue 21, c'est un mensuel, cite notamment une note manuscrite attribuée au secrétaire de l'Élysée à l'époque, Hubert Védrine, qui confirme cette note, l'ordre de réarmer les génocidaires, malgré l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies un mois plus tôt, donc toujours en 1994, et malgré la mission de l'opération française turquoise qui était autorisée par l'ONU. Une mission qui visait à mettre fin au massacre partout où c'était possible. On sait que le Canada a aussi, à travers ses casques bleus, joué un rôle important dans ce théâtre qui a malheureusement donné lieu à un génocide au Rwanda dans les années 90. Donc si vous voulez suivre cette nouvelle découverte dans les archives de l'Élysée en France, vous pouvez consulter Ouest France à l'adresse westfrance.fr. Rwanda, Paris aurait donné l'ordre de réarmer les génocidaires Hutus. États-Unis maintenant, cette fois dans le portail RFI.fr. France, Donald Trump assistera au défilé du 14 juillet. Donc le 14 juillet, c'est la fête nationale des Français. Donald Trump a été invité par le nouveau président français à assister au défilé. C'est dans RFI. Le président américain Donald Trump a accepté l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron à assister à la fête nationale du 14 juillet dans le cadre du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Donald Trump assistera au traditionnel défilé du 14 juillet à Paris, ont annoncé Paris et Washington dans deux communiqués distincts. Le président Trump est impatient de réaffirmer les liens d'amitié solides entre les États-Unis et la France, de célébrer ce jour important avec les Français et de commémorer le 100e anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, a déclaré la Maison-Blanche. Alors voilà, l'amitié entre la France et les États-Unis qui n'est pas trop affectée par le retrait du président Trump de l'accord de Paris, on dirait. Le président Macron qui avait signifié son désaccord prononcé, son vif désaccord suite au retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Il semble que cela n'ait pas empêché la visite du président Trump le 14 juillet. Donc c'est dans moins de deux semaines, dans un peu plus de deux semaines plutôt. États-Unis encore, le Trump Care dans l'impasse. C'est dans le journal Le Monde la présentation du texte du Sénat censé abroger le système d'assurance santé introduit sous la précédente administration, l'administration de Barack Obama. Ce texte donc d'abrogation du système d'assurance santé a été repoussé faute d'une majorité pour l'adopter. Ça se passe au Sénat américain et c'est rapporté dans Le Monde. Rien n'y fait, écrit le journaliste du Monde, ni les tête-à-tête avec le président, ni les déjeuners avec le vice-président, ni les innombrables coups de téléphone de l'exécutif américain aux élus républicains réticents à entériner la réforme de l'assurance santé promise par Donald Trump. La présentation du texte du Sénat censé abroger le système d'assurance santé introduit sous la précédente administration a été repoussée faute d'une majorité pour l'adopter. Alors que le vote était prévu pour la fin de semaine, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé mardi 27 juin sa décision de repousser au mieux dans le courant du mois de juillet, après la semaine de congé de la fête nationale du 4 juillet, la présentation de ce texte emblématique censé abroger rapidement l'Obamacare, comme on l'a appelé, le système introduit sous la présidence de Barack Obama. On va se transporter maintenant dans les colonnes du média indépendant Mediapart à l'adresse mediapart.fr. Ça concerne le Royaume-Uni ou si vous préférez la Grande-Bretagne. Premier vote de la nouvelle Chambre des communes, un test pour Theresa May. C'est dans le fil de Reuters. Le Parti travailliste britannique a obtenu l'organisation mercredi d'un vote de la Chambre des communes sur un amendement à un projet de loi du gouvernement de Theresa May imposant un plafond de salaire pour certains fonctionnaires. Le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, a expliqué que son parti souhaitait s'opposer aux coupes budgétaires que veulent imposer, selon lui, les conservateurs aux services de police et aux pompiers du pays. Ce vote qui devait avoir lieu aujourd'hui apparaissait comme un test grandeur nature pour Theresa May, qui est parvenue à conclure lundi une alliance avec le Parti démocratique unioniste d'Irlande du Nord, le DUP. On avait parlé de cette nouvelle en début de semaine. Ça évoque par écho les manœuvres parlementaires qui ont lieu ici même en Colombie-Britannique, alors que la première ministre Christy Clark tente de survivre à un vote de confiance. Alors, il y a des parallèles entre la Grande-Bretagne et la Colombie-Britannique actuellement au niveau parlementaire. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de Reuters. Premier vote de la nouvelle Chambre des communes, un test pour Theresa May. On se transporte en Extrême-Orient. Manifestation à Hong Kong. Un militant pro-démocratie est interpellé. C'est dans le fil de l'agence France-Presse. Le leader du mouvement étudiant de contestation pro-démocratique de Hong Kong, Joshua Wong, a été interpellé mercredi pendant une manifestation à la veille de l'arrivée du président chinois Xi Jinping, a constaté un photographe de l'AFP. Joshua Wong, visage du mouvement pro-démocratie de 2014, la révolution des parapluies, si vous vous souvenez, et une vingtaine d'autres militants, avaient entamé ce jour-là un sit-in autour du monument symbolisant le retour de Hong Kong dans le giron chinois. Cette manifestation, donc cette semaine, avait lieu à la veille de l'arrivée du président chinois pour le 20e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine. Le monument autour duquel s'étaient assis les militants pro-démocratie représente une imposante fleur devenue l'emblème de Hong Kong. Ce monument avait été offert par la Chine en 1997 et se trouve à côté du centre de convention où s'était tenue cette année-là la cérémonie de rétrocession. On revient dans le journal Ouest-France pour parler de la plus récente cyberattaque mondiale qui est à l'origine du virus Petya, demande le journaliste de Ouest-France. Dans la généalogie du virus Petya, les services de renseignement américains, russes et nord-coréens s'entrecroisent avec des groupes de hackers énigmatiques, peut-on lire. Retour sur les origines d'un virus qui contamine depuis mardi 27 juin les réseaux informatiques internationaux. Petya est un logiciel de rançonnage qui bloque les systèmes informatique et demande une rançon de $300 pour retrouver l'accès aux données cryptées. Plusieurs centaines d'entreprises et administrations sont touchées depuis le mardi 27 juin. Banques, laboratoires, aéroports, cabinets d'avocats, transporteurs, hôpitaux, etc. Et même le site de l'accident de Tchernobyl en Ukraine a été atteint. En France, c'est notamment l'entreprise Saint-Gobain, la SNCF, BNP Paribas et le groupe Auchan qui ont été affectés. De l'Australie à l'Amérique, en passant par l'Europe, la diffusion de Petya, ce virus donc, se joue des frontières géographiques, poursuit cet article. Et cet article indique par ailleurs que ce serait une fuite de la NSA qui aurait été à l'origine de la faille informatique et qui aurait permis la diffusion de ce virus à l'échelle mondiale. On ignore toujours qui est le groupe non identifié qui est derrière cette attaque. Si vous voulez un petit peu approfondir, c'est dans les colonnes du média Ouest-France à l'adresse westfrance.fr. Politique internationale, cette fois au Moyen-Orient, Riyad, la capitale saoudienne, réaffirme que ses demandes à Doha, la capitale du Qatar, ne sont pas négociables. C'est dans le journal Le Monde. L'Arabie saoudite et ses voisins ont transmis au Qatar 13 requêtes, dont l'arrêt de la chaîne Al Jazeera et la réduction de ses relations avec l'Iran. L'Arabie saoudite a réaffirmé mardi 27 juin que les requêtes que le royaume a formulées à l'encontre du Qatar sont inaliénables, selon sa propre expression. « Nos demandes ne sont pas négociables », a déclaré l'Arabie saoudite. « C'est maintenant au Qatar de cesser de soutenir l'extrémisme et le terrorisme », a fait valoir sur Twitter le ministre saoudien des Affaires étrangères Abel Al-Jubert alors qu'il se trouvait à Washington. Ces déclarations sont intervenues peu avant que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson ne reçoivent son homologue qatari au sujet de la crise des pays du Golfe. Diplomates états-uniens et koweïtiens s'efforcent actuellement de jouer les médiateurs entre Doha et ses voisins qui, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, l'ont isolé économiquement et diplomatiquement. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte lui ont ainsi transmis au Qatar une liste de 13 demandes, parmi lesquelles l'arrêt de la chaîne Al Jazeera, la fermeture de sa base turque et la réduction de ses relations avec l'Iran. Les États-Unis ont mis en garde sur le fait que le Qatar aurait du mal à satisfaire certaines requêtes et ont demandé à Riyad de réduire sa liste à celle raisonnable et recevable. Donc voilà, un étonnant conflit entre des pays qui sont normalement alliés dans le golfe Persique, un conflit qui se poursuit et l'Arabie saoudite qui durcit sa position, son ultimatum servi au Qatar. Donc vous trouverez ça dans le journal Le Monde dans la section Proche-Orient. Et on va se transporter en Suisse pour consulter les colonnes du média lecourrier.ch. C'est un grand quotidien suisse. On a un article de fond sur la situation en Turquie. C'est plutôt un entretien, en fait. C'est un entretien qu'a mené Le Courrier avec l'historien Amit Bozarslan, un historien émérite donc qui décrit la Turquie comme un pays livré à l'arbitraire et à la dérive, en substance. Alors, je vous donne quelques-unes des questions qui sont adressées à l'historien dans cet entretien. Quels sont les éléments qui vous préoccupent le plus dans les développements actuels en Turquie? Réponse de l'historien, le pays est comme un bateau ivre. Il n'y a plus de mécanisme d'équilibre et de contrôle au sommet de l'État. Nous assistons à une désinstitutionnalisation étatique. Or, même un État autoritaire a besoin d'institutions. Dans la logique actuelle, il n'y a plus aucune possibilité d'enrayer les dérapages. On le constate dans la spirale des purges actuellement. De plus en plus de gens proches du régime sont accusés d'être des ennemis de l'intérieur. Des juges qui ont arrêté des ennemis de l'État sont aujourd'hui considérés eux-mêmes comme tels. On a l'impression d'être face à une machine devenue folle. Comment expliquer cette fuite en avant, demande le journal suisse. Erdogan voit dans ses institutions étatiques modernes une entrave à la fusion charnelle entre les leaders et la nation. La grandeur de la nation turque s'incarne dans sa personne, qu'on appelle d'ailleurs maintenant le Reis. C'était le titre qu'utilisaient les dignitaires dans l'Empire ottoman, ce qui veut dire littéralement la tête et de manière figurative le chef, le duce. Pour Erdogan, ce Reis représente le passé, le présent et l'avenir de la nation. Et les trois dates clés de ce futur proche sont à ses yeux 2023, avec le centenaire de la République de Turquie, 2053, pour le 600e anniversaire de la conquête de Constantinople, et 2071, avec finalement le millénaire de l'arrivée des Turcs en Anatolie. Erdogan a une vision claire de l'histoire, les Turcs doivent restaurer leur domination. Cette dérive, demande le journal suisse Le Courrier, est-elle la conséquence du putsch manqué de juillet 2016? Non, répond l'historien, le processus avait commencé bien avant, dès 2011. Les difficultés rencontrées en matière de politique étrangère, la contestation, les affaires de corruption ont accéléré le processus voulu par Erdogan. Donc Erdogan qui se précipite dans la voie de la dictature, de l'autocratie. Vous avez un entretien fort intéressant donc dans le journal suisse Le Courrier, à l'adresse lecourrier.ch, avec l'historien turc Amit Bozarslan, en date du 27 juin. Et c'est sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale pour les 28 et 29 juin. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Nous allons enchaîner dans quelques instants avec la revue de presse nationale. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute du débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM. Nous sommes dans l'édition des 28 et 29 juin. On va poursuivre nos revues de presse du jour et passer aux nouvelles nationales, les nouvelles canadiennes. On va tout de suite débuter dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Actualité pour évoquer une décision récente de la Cour suprême. L'article est signé par Mylène Kratt. Ça s'intitule « La Cour suprême ordonne à Google de retirer des sites web à l'échelle mondiale ». La Cour suprême ordonne à Google d'effacer des sites web de son moteur de recherche partout dans le monde. Une décision qui ne porte pas atteinte à la liberté d'expression selon le plus haut tribunal du pays. 7 des 9 juges ont maintenu mercredi une injonction accordée en 2012 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique à SQ Tech Solutions, une entreprise de technologie industrielle. L'injonction vise uniquement les sites de data Link, une entreprise de distribution coupable d'avoir violé la propriété intellectuelle d'SQ Tech pour revendre l'un de ses produits en ligne. Google avait déjà retiré 345 pages web de Datalink de son moteur de recherche au Canada, mais refusait de le faire à l'international. Le géant de l'Internet contrôle plus de 70% des recherches mondiales dans Internet. Google arguait, entre autres, que la Cour canadienne n'avait pas la compétence d'imposer une injonction dont la portée dépassait les frontières canadiennes, même si elle reconnaissait le préjudice subi par SQ Tech. Google n'a pas réussi à démontrer que cette ordonnance d'injonction contrevenait à la liberté d'expression selon le jugement de la Cour suprême du Canada qui souligne qu'il s'agit également de l'unique façon pour SQ Tech d'obtenir justice puisque Datalink avait déménagé ses opérations à l'extérieur du pays. On va se déplacer maintenant dans le fil de la presse canadienne. Réforme électorale, un choix difficile mais nécessaire. Le premier ministre Justin Trudeau accuse les partis d'opposition de l'avoir confronté au difficile mais nécessaire choix de reléguer aux oubliettes la réforme du mode de scrutin. En conférence de presse de fin de session à Ottawa en début de semaine, le premier ministre a soutenu que l'intransigeance des partis adverses avait empêché les libéraux de livrer l'une de leurs promesses électorales les plus limpides. Et en substance, le premier ministre a rappelé que le camp conservateur voulait le statu quo en matière de scrutin, tandis que les néo-démocrates, eux, étaient plutôt favorables au mode de scrutin proportionnel, ce qui a empêché, toujours selon le premier ministre, le gouvernement d'aller de l'avant avec une réforme. On va voir si les observateurs de ce dossier sont d'accord avec cette excuse formulée par le premier ministre Trudeau. C'était vraiment une des promesses phares de la campagne électorale de 2015, la réforme du mode de scrutin. Dans les pages du journal Le Devoir, on signale le décès de l'ancien dirigeant du Parti libéral du Canada, Benoît Corbeil. Un des acteurs du scandale des commandites, Benoît Corbeil, est décédé il y a quelques jours, rapporte Le Devoir. L'ex-directeur général de l'aile québécoise du Parti libéral du Canada avait plaidé coupable en 2009 à des accusations de trafic d'influence. Benoît Corbeil avait suggéré à un homme d'affaires qui désirait acquérir un terrain à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, un terrain appartenant au gouvernement fédéral, de verser pour faciliter la transaction, une contribution de 50 000 $ au Parti libéral du Canada. Le Parti libéral du Canada avait toujours soutenu que ces 50 000 $ ne s'étaient pas rendus jusqu'à ses coffres. Benoît Corbeil avait également reconnu avoir fraudé son employeur, le Parti libéral du Canada, en autorisant le paiement de factures fictives totalisant 117 000 $. Dans le portail de Radio-Canada, à présent, Ottawa lance un programme de mentorat en santé pour les Autochtones. Le gouvernement fédéral annonce son intention de bâtir un réseau de mentorat pour encourager les Autochtones à travailler dans le domaine de la santé. La ministre de la Santé du Canada, Jane Philpott, a révélé mercredi que les instituts de recherche en santé du Canada investiraient 8 millions de dollars sur 5 ans afin d'accompagner les Premières Nations, les Inuits et les Métis qui souhaitent poursuivre une carrière de recherche en santé. Et au Québec, toujours dans le dossier des Premières Nations, 147 millions de dollars à un plan pour les Premières Nations et les Inuits. Le gouvernement du Québec investit 147 millions de dollars dans son premier plan d'action pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. C'est rapporté par la presse canadienne. Le premier ministre Philippe Couillard en a fait l'annonce mercredi matin dans un musée de la ville de Québec. Par ce plan de 5 ans, rapporte la presse canadienne, le gouvernement du Québec veut notamment mettre en place de nouveaux services pour les communautés autochtones en matière de réussite scolaire. Entre autres, Québec veut ainsi développer les services de sages-femmes, soutenir les groupes de femmes pour contrer les violences sexuelles et mieux accompagner les Autochtones dans le système de justice et dans les prisons. Le gouvernement du Québec entend également financer des programmes de soutien aux langues autochtones. Un peu plus bas dans le fil de la presse canadienne, FAT du Canada, de nouvelles mesures de sécurité sont envisagées. Les responsables de la sécurité disent être prêts à accueillir l'immense foule qui convergera vers la colline du Parlement pour célébrer le 150e anniversaire de la Fédération canadienne samedi prochain. Mais cela ne veut pas dire que les experts au gouvernement fédéral ont terminé leur réflexion sur les façons de mieux assurer la sécurité dans le siège de la démocratie canadienne pour les mois et les années à venir. Les conseillers du gouvernement, rapporte la presse canadienne, recueillent des données sur plusieurs aspects de cet enjeu, de l'afflux des foules sur la colline jusqu'à la disposition des caméras afin de s'assurer que la sécurité des lieux soit améliorée tout en préservant l'ouverture de l'enceinte parlementaire. Toujours dans le fil de la presse canadienne, Ottawa lance son centre de prévention de la radicalisation. Le centre de prévention de la radicalisation promis depuis longtemps par le gouvernement fédéral a été lancé, mais la nomination d'un conseiller spécial appelé à élaborer une stratégie nationale pourrait se faire attendre encore des mois, rapporte la presse canadienne. Le gouvernement affirme que le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence assurera un leadership national, favorisera la coordination et offrira un soutien aux groupes communautaires, aux praticiens de première ligne et aux intervenants dans les mesures qu'ils prennent pour empêcher la radicalisation menant à la violence. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, affirme que le nouveau centre aidera à faire tout ce qu'il est humainement possible de faire afin de prévenir la radicalisation menant à la violence avant qu'une tragédie ne survienne. On va se rendre maintenant à l'adresse ricochet.media, côté francophone de ce média anglo et francophone. On a un article sur le revenu de base garanti, qu'on appelle aussi parfois le revenu universel et par d'autres appellations. C'est un article qui est signé par Maïka Sundarji et ça s'intitule « Trois mauvaises raisons de s'opposer au revenu de base garanti et une bonne raison de s'y opposer ». L'Ontario annonçait il y a quelques semaines un projet pilote d'instauration d'un revenu de base garanti, écrit Maïka Sundarji dans cet article. Le problème avec ces transferts d'argent non conditionnels est qu'ils peuvent aussi bien réduire les inégalités, s'ils font partie d'un projet de gauche, que les augmenter, s'ils font partie d'un projet libéral. Le projet sur 3 ans du gouvernement ontarien de Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario, lancé dans les régions de Hamilton, Brantford, Thunder Bay et Lindsay, attribuera aléatoirement un montant annuel de 16 989 $ par individu ou 24 027 $ par couple. Cette initiative fait suite à un engouement mondial pour le revenu de base garanti et les transferts monétaires non conditionnels. Cet engouement, continue la journaliste, a notamment eu des répercussions au Portugal, en Finlande, aux Pays-Bas, en France, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, et au sein de nombreuses ONG dans des pays du sud global comme le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda. Et l'auteur de cet article répertorie 3 mauvais arguments contre le revenu de base garanti. Elle commence avec le premier argument fallacieux, incitation à travailler moins. L'argument le plus populaire, écrit-elle, soutient que le revenu de base garanti incitera les récipiendaires à travailler moins. Cet argument est aisément réfuté, écrit-elle, par une étude sur un projet pilote similaire ayant eu lieu dans les années 70 à Dauphin, au Manitoba. Et elle poursuit son argumentation sur plusieurs lignes. Allons tout de suite au deuxième argument fallacieux contre le revenu de base garanti, selon elle, augmentation des dépenses frivoles. Une seconde crainte, écrit-elle, est que le récipiendaire du revenu de base garanti dépense mal leur argent. Certaines études argumentent en effet que les individus à moindre revenu ont de moins bonnes habitudes de consommation. Mais rien ne prouve qu'un revenu de base garanti incite les récipiendaires à flamber leur argent dans des dépenses frivoles. Et finalement, l'argument fallacieux numéro 3, écrit l'auteur de cet article, « On ne peut pas se permettre de procurer un revenu de base garanti à tout le monde ». Elle écrit « Un sondage de Ipsos Affairs dévoilait la semaine dernière que si 40% des Canadiens sont d'accord avec l'idée du revenu de base garanti, 52% trouvent qu'une telle politique augmenterait les taxes de manière insoutenable. Bien sûr, les programmes sociaux ont toujours un coût », reconnaît l'auteur de cet article. Mais le rapport de l'Institut des politiques du Nord assure que le montant estimé pour un tel programme, autour de 15 milliards de dollars actuellement, correspondrait à seulement 5% des dépenses fédérales. Instaurer le revenu de base garanti au Canada est un choix politique, certes, mais pas un choix utopique. Et l'auteur convient qu'il existe effectivement un bon argument contre le revenu de base garanti. Le seul risque majeur, écrit-elle, est que le revenu de base garanti incite les gouvernements à réduire leur politique sociale. Si l'État se désengage de ses responsabilités sociales, donner un montant forfaitaire pourrait augmenter la responsabilité individuelle des citoyens et soutenir le principe d'utilisateur-payeur. Le revenu de base garanti pourrait permettre au gouvernement de justifier l'arrêt, la réduction ou la tarification de programmes comme l'aide sociale, le soutien aux aînés, les services de garderie, les logements sociaux ou les prestations pour contraintes à l'emploi. De nombreux intervenants communautaires craignent que le projet de revenu de base garanti serve d'excuse au gouvernement pour justifier un désinvestissement dans les programmes sociaux. Un tour d'horizon donc fort éclairant de la part de Maïka Sondergi dans le portail ricochet.media sur la question du revenu de base garanti, un concept qui connaît de plus en plus de popularité et de retentissement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Vous trouverez ça, je le disais, dans le portail ricochet.media, côté francophone. Et on pourrait terminer avec cet article signé par Marie Vastel dans le journal Le Devoir. Un tireur d'élite canadien fait la fierté de Justin Trudeau. L'opposition dénonce l'hypocrisie de la mission en Irak. Il y a quelques jours, écrit Marie Vastel, nous avons appris qu'un membre de l'armée canadienne avait atteint une cible éloignée de 3,5 km en Irak. Et Marie Vastel rappelle que le premier ministre cette semaine a félicité ce soldat tireur d'élite et a célébré cet acte, cet assassinat finalement de djihadistes. Et évidemment, cette sortie publique du premier ministre a suscité des réactions. Je vais vous citer par exemple la réaction de Thomas Mulcair, qui est le chef du parti néo-démocrate. « Je n'aurais jamais pensé que j'entendrais un premier ministre du Canada dire qu'il faut célébrer la mort d'un être humain. » Ça ne fait pas partie de mes valeurs, a déclaré le chef du nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair, indigné. Et l'opposition à Ottawa souligne que la mission canadienne en Irak en est une d'autodéfense et non une mission offensive de guerre à proprement parler. Et c'est ce qu'a tenu à rappeler également le leader Thomas Mulcair en chambre. C'est difficile de voir l'autodéfense à 4 km, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas supposé être sur la ligne de front, a dénoncé Thomas Mulcair cette semaine. Ça ne peut pas être vrai qu'on peut tirer directement sur l'ennemi de la ligne de front et qu'on n'est pas impliqué dans une mission de combat. C'est une contradiction totale, a-t-il fait valoir. Le chef du NPD, poursuit la journaliste Marie Vastel dans le journal Le Devoir, a d'ailleurs sommé le premier ministre Justin Trudeau, dans une lettre qu'il lui a adressée cette semaine, de tenir un débat sur l'évolution de la mission canadienne en Irak, un débat qui se tiendrait à la Chambre des communes le plus tôt possible. Thomas Mulcair attend encore une réponse du premier ministre. Donc vous trouverez cet article dans le journal Le Devoir. Un tireur d'élite canadien fait la fierté de Justin Trudeau. On va clore ici cette revue de presse nationale, cette revue de presse canadienne pour les 28 et 29 juin. Le débrief se poursuit. Restez à l'écoute. On va s'intéresser dans quelques instants à la francophonie. Ce sera le moment de passer à la rubrique francophone. Restez à l'écoute. Affaire francophone, c'est ce moment de l'émission où on s'intéresse en particulier à la francophonie. J'ai aperçu pour vous une chronique dans le journal Le Devoir. C'est une chronique signée par le correspondant à Paris du journal Le Devoir, Christian Rioux. Où est passée la francophonie? La délégation des affaires francophones n'a toujours pas de titulaire dans le gouvernement Macron, écrit le chroniqueur en date du 28 juin. Une semaine après le remaniement ministériel qui a suivi les élections législatives françaises, personne ne sait encore qui prendra en charge la francophonie dans le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. À Matignon, il aura fallu 4 heures pour nous dire que la francophonie était évidemment sous la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais encore, demande le chroniqueur du Devoir. Habituellement, dans ce ministère, un secrétariat d'État est attribué à la francophonie. Mais impossible d'en connaître le titulaire. Impossible aussi de savoir si, Comme par le passé, ce secrétariat d'État sera jumelé avec la coopération internationale. Après quelques heures de recherche, la délégation des affaires francophones nous a finalement répondu ce qui suit. Je vous confirme que nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer actuellement qui sera en charge de la francophonie tant que le décret ne sera pas paru. Dans les milieux informés, poursuit le chroniqueur du Devoir, on évoque le nom de Jean-Baptiste Lemoine, nommé la semaine dernière secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères. Contrairement à ce qui a déjà été dans la pratique, ce sénateur de Livonne, qui est une région en France, a été nommé sans attribution précise, pour l'instant du moins. On sait cependant qu'au Sénat, il s'est occupé de la francophonie et qu'il a été président délégué du groupe d'amitié avec l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'en décembre dernier, poursuit Christian Rioux dans cette chronique, c'est le ministre du Développement, André Valigny, qui avait assumé la responsabilité de la francophonie pendant une dizaine de mois en tout. Il avait alors remplacé Annick Girardin, qui avait elle-même succédé à Yasmina Benguigui, obligée de quitter ses fonctions pour avoir omis de déclarer à l'impôt une partie de son patrimoine. Trois secrétaires d'État se seront donc succédés en seulement 5 ans, écrit le journaliste. En décembre 2016, André Valigny n'avait pas été remplacé. La fonction avait échu directement au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à l'époque. En cette période de branle-bas politique, continue Christian Rioux dans cette chronique, la francophonie n'est pas le seul domaine sans responsable attitré dans le gouvernement français. Le logement n'a plus de titulaire spécifique et la fonction échoit directement au ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Dans le milieu des ONG, on s'inquiète aussi de l'absence de responsable du développement international. On se souviendra qu'en campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était distingué à 2 reprises en affirmant qu'il n'y avait pas une culture française, entre guillemets, et qu'il n'y avait pas non plus d'art français. Sur le site du journal économique Les Échos, Gilles Djerayaman s'est récemment inquiété de l'absence éventuelle d'un secrétaire d'État à la francophonie. Si cette situation devait perdurer, cela risquerait de décourager les nombreux défenseurs de la francophonie à travers le monde, avait-il écrit dans le journal Les Échos. Dans une contribution plus récente, l'auteur invitait le nouveau président à réinvestir la francophonie d'urgence. À l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, on a déclaré au journaliste Christian Rioux n'avoir aucune raison de s'inquiéter actuellement. On considère que la nomination d'un secrétaire d'État à la francophonie n'est qu'une question de jour de la part du gouvernement d'Édouard Philippe. Et l'on se dit rassuré par les engagements pris par Jean-Yves Le Drian envers l'Organisation internationale de la francophonie. Jean-Yves Le Drian, rappelons-le, qui est ministre des Affaires étrangères. À Québec, conclut Christian Rioux dans cette chronique, la ministre des Relations internationales du Québec, Christine Saint-Pierre, en saura peut-être plus dès cette semaine, puisqu'elle doit rencontrer son homologue d'ici quelques jours. Donc voilà, donc il y a un gros point d'interrogation qui demeure quant à l'identité des responsables du dossier francophone de la francophonie mondiale dans le gouvernement d'Édouard Philippe, nommé par le président Emmanuel Macron. C'est dans le journal Le Devoir. Vous trouverez ça dans la chronique de Christian Rioux en date du 28 juin. C'était là votre information à thématique francophone dans cette édition des 28 et 29 juin du débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
Je suis en feu, ça me fait mal. Je t'y pense, je sens brûler. Imaginez notre gars, moi, de caresser, de respirer. Je suis en feu et c'est normal. Tu m'émoustilles de tes grands yeux, de ton petit cul, de tes seins pointus, de tes jambes, de tes lèvres charnues. Car tu couchais à côté de moi, juste t'entendre respirer, te provoquer en dedans de moi, une combustion spontanée, qui donne le goût de t'en passer, partout sans même te réveiller, remplir tes rêves de doux baisers. Susan. en feu de lumière. Toute l'angoisse en dedans de moi. Je suis en calme même quand tu dors. Ou bien si t'en es soulagé, la peine soit bien arrosée. Que ma fuse va sauter. Ça va être charmant, mon bon body. Entre puis moi, c'est terminé. Si tu t'écoutes pour m'en aller, et les tisons se répandront, c'est moi le doute à l'horizon, c'est moi le doute à l'horizon. On m'étouffait sous le décan, les flambes vont dans la cabane, et notre amour se dissipait, tel des perles de fumée. Le vent est dispersé. Au petit matin. Au petit matin.
Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief. On entendait à l'instant l'artiste Philibert, une pièce intitulée tout simplement En Feu. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie. Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale. L'info se poursuit dans cette édition des 28 et 29 juin du Débrief. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On va tout de suite débuter dans le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique, la soif insatiable de l'industrie de la fracturation hydraulique en Colombie-Britannique. Après avoir publié un rapport en mai révélant l'existence de dizaines de barrages illégaux dans le nord-est de la Colombie-Britannique, le Centre canadien de politique alternative, le CCPA, enfonce le clou. Selon cet organisme à but non lucratif, l'ensemble de la gestion de l'eau dans cette région de la province est à revoir, car les droits autochtones y sont régulièrement violés. Dans son nouveau rapport d'une trentaine de pages, le CCPA note une forte augmentation des opérations de fracturation hydraulique dans le secteur du gaz naturel, sans que les Premières Nations sur place ne puissent interférer sur la façon, le moment et le lieu choisi par les sociétés privées concernées pour exploiter les terres traditionnellement appartenant aux Premières Nations. L'organisme dénonce la soif insatiable de l'industrie du gaz naturel qui recourt à la fracturation hydraulique pour extraire la matière. Le forage et les opérations de fracturation ont dévasté les Premières Nations locales, érodant leur capacité à chasser, pêcher ou à s'adonner à d'autres pratiques traditionnelles qui sont censées être protégées par le traité 8, comme on l'appelle. On va demeurer dans le dossier environnemental, si vous le voulez bien, en se transportant dans les colonnes du journal Le Figaro, un journal européen qui parle de pêche, et plutôt de surpêche, 10 millions de tonnes de poissons gaspillés chaque année. Vous allez voir, il y a un élément britanno-colombien dans cette nouvelle. Les universités de Colombie-Britannique et d'Australie-Occidentale pointent dans un rapport le nombre important de poissons rejetés en mer, bien qu'ils soient en baisse depuis une trentaine d'années. Environ 10% de la pêche annuelle serait rejetée à la mer chaque année, malgré les progrès réalisés récemment dans la lutte contre le gaspillage, peut-on lire dans cet article du Figaro. C'est la conclusion d'un rapport dévoilé ce lundi par des scientifiques australiens et américains. L'étude intitulée Sea Around Us, menée par les universités de Colombie-Britannique, UBC, et d'Australie-Occidentale, s'est échelonnée sur 10 ans et a été supervisée par 300 experts. Environnement toujours, Vancouver s'attaque aux tasses de carton ou de styromousse à usage unique et aux emballages de nourriture à emporter. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Radio-Canada International à l'adresse rcinet.ca. Vancouver, la métropole de la côte ouest canadienne, a toujours été à l'avant-garde des courants écologiques au pays, rappelle cet article de Radio-Canada International. En juillet 2011, Vancouver avait adopté un plan d'action dans la foulée de l'objectif de devenir la ville la plus verte du monde d'ici 2020. Dans sa lutte contre les gaz à effet de serre, les GES, Vancouver espère éliminer sa dépendance aux sources d'énergie fossiles. Pour 2020, le but consiste à réduire de 33 % ses émissions de GES par rapport à 2007. On parle beaucoup de l'empreinte écologique de Vancouver dans cet article, en mentionnant l'objectif, bien sûr, de 2020. Et on revient sur la question des tasses de carton et de styromousse, bien sûr, comme l'indique le titre de cet article signé par Raymond Desmarteaux. Dans les colonnes du portail Sympatico, à l'adresse sympatico.ca, des opposants à Kinder Morgan tentent d'obtenir des documents incriminant les libéraux de Colombie-Britannique. Les groupes Citoyens Démocratie en surveillance et Pipe Up sont en Cour suprême de la Colombie-Britannique pour tenter de mettre la main sur des documents du gouvernement de la province et du Parti libéral de la Colombie-Britannique qui prouvent le conflit d'intérêts en toile de fond de l'approbation de la construction du pipeline Trans Mountain de la compagnie pétrolière Kinder Morgan. Nous voulons savoir comment et à quel moment les libéraux de Colombie-Britannique ont obtenu les dons de Kinder Morgan et des compagnies pétrolières, a expliqué Lynn Perrin, porte-parole de l'organisme Pipe Up. Vous trouverez ça dans le portail sympatico.ca et aussi également, l'article avait paru originalement dans le portail de Radio-Canada. Ça s'intitule « Des opposants à Kinder Morgan tentent d'obtenir des documents incriminant les libéraux britanno-colombiens ». Actualité insolite maintenant pour clore cette revue de presse provinciale. Une corneille agresse des facteurs à Vancouver. Le courrier s'arrête. C'est dans le fil de l'agence QMI que vous trouvez cette actualité insolite. Après l'attaque de plusieurs facteurs par une corneille, le service postal canadien a suspendu la distribution du courrier dans un quartier de Vancouver. « Nous avons eu des problèmes dans ce quartier quand nos facteurs ont été attaqués par une corneille », a raconté mardi Phil Legault, porte-parole de Post Canada. La sécurité de notre courrier et de nos employés est la priorité, a ajouté le porte-parole en précisant que les habitants avaient été informés du lieu où retirer leur courrier. À la suite d'une attaque du volatile, l'un des préposés au courrier est revenu ensanglanté, selon les médias locaux. On a eu des attaques de corneilles ici dans la région de Victoria également. Certaines années, c'est plus intense que d'autres. Les corneilles défendent leur nid, évidemment. C'est la saison d'éclosion des œufs et elles peuvent véritablement devenir des menaces pour les piétons, les passants, jugés trop proches du petit nid familial. Donc vous trouverez cette nouvelle insolite, je le disais, dans le fil de l'agence QMI, notamment sur le portail canoë.ca. Et c'est avec cette actualité locale qu'on complète aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Merci d'écouter l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Nous allons faire une courte pause. Au retour, on va se pencher sur la météo du week-end. Météo des prochains jours, on va tout de suite se diriger vers le portail météo.gc.ca. Si vous nous écoutez en fin de journée du 28 juin, c'est actuellement 17 degrés à l'aéroport de Victoria. Le mercure oscille entre 17 et 18 actuellement. Pour demain, jeudi 29 juin, ce sera 24 degrés avec du soleil. Vendredi 30 juin, identique. Donc un soleil qui règnera sans partage dans le ciel de Victoria. Maximum de 24 degrés, ça demeure dégagé en soirée, tant jeudi que vendredi. Et pour le week-end, le soleil reste avec nous. Un maximum de 21 samedi et de 22 dimanche. Très intéressant. Quelques nuages seulement dans la journée de samedi et une journée sans nuages pour le dimanche 2 juillet. Donc le week-end de la Confédération pour les festivités entourant le 150e sera ensoleillé ici dans la grande région de Victoria. C'est déjà tout pour le débrief. Merci de l'avoir suivi en cette édition des 28 et 29 juin. Excellente soirée si vous nous écoutez en fin d'après-midi. Excellente journée si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 29 juin. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Bonjour, je m'appelle Skyler.
Et je m'appelle Bella.
Et vous écoutez
C-I-L-S-F-M
à Victoria.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CISFM.
Je dis pas si encore dans ma vie histoire. Ça, je t'ai promis. Quand je réservais un soir, y'a beaucoup de route à faire. C'est pas comme l'année dernière. Je t'ai dit que mon cœur resterait avec le tien.
ici, mon chéri. Je t'emmènerai au loin, jusqu'au bout de la nuit. Tu es si tendre, tu me fais la cour. Viens ici, mon amour. Je te dirai tes mots tout jusqu'à la fin de nos jours. Je vis pour mon rendez-vous. Le reste, je m'en fous. Je vis. Je te prendrai dans mes bras, jusqu'à me perdre en toi. Tu es trop beau, tu me fais marcher. Viens ici, mon aimé. Je te laisse t'envoler, jusqu'à la nuit tombée. Je vis pour nos rendez-vous. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous, je vis pour nos rendez-vous. Le reste, je m'en fous, je vis pour nos rendez-vous. Le reste, je m'en fous, je vis pour nos rendez-vous. Le reste, je m'en fous, je vis pour nos rendez-vous. Thank you.
saura quand le saura. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas. Ce qui reste bien fait pour toi, je dirais ça t'apprendra. Je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le verras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance te fuira et te laissera dans l'oubli. Celui qui saigne les cœurs, personne il n'y aura lorsque tu me voudras. Pleure, bébé, pleure devant moi. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on le saura. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleurera. Laisse tomber les filles, 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 laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on les saura. Thank you.
Vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
L'Odyssée du rythme. À la technique, Nicolas Fisch. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, par lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage! Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous. L'Odyssée du rythme vous emmène dans l'ère du swing. Le swing exprime la manière d'interpréter